En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de la séance de l'Académie des Beaux-Arts qui s'est déroulée le 30 mai 2007. Ce jour-là, le critique d'art, philosophe et écrivain Gilbert Lascaux fit une communication intitulée « Les tentations de Saint-Antoine et le monstrueux ». Vous entendrez l'allocution d'introduction d'Arnaud Dautrive, le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, puis Gilbert Lascaux. Retrouvons-les en séance.
Nous accueillons aujourd'hui, grâce à notre confrère Jean Cortot, Monsieur Gilbert Lascaux, que nous remercions vivement d'avoir accepté notre invitation de ce jour et auquel je souhaite la plus cordiale bienvenue dans cette assemblée. Vous avez souhaité, monsieur, nous parler du thème du monstre dans l'art occidental, thème qui nous tient à cœur depuis longtemps, puisque vous lui avez consacré un ouvrage en 1973. Permettez-moi, avant de vous laisser la parole, de dire quelques mots de votre parcours à l'attention des personnes venues aujourd'hui vous écouter. Chacun connaît certainement ici au moins l'un de vos très nombreux ouvrages à travers lesquels s'exprime depuis toujours votre passion pour l'art, la création, l'écriture fictionnelle. Vous êtes professeur émérite de philosophie, de l'art à l'université Panthéon-Sorbonne et critique d'art. Votre production littéraire compte aussi bien des ouvrages d'esthétique, Le monstre dans l'art occidental, déjà cité, Petite tétralogie, Du fallacieux, écrit timide sur le visible, Théâtre d'images et murs peints, Cartes à jouer et réussites, que des monographies consacrées à Malaval, Ernst, Bacon, Boltanski, Botero, Gros Garriga, Louis Pons, Marcus Reiss et tout dernièrement notre confrère Guy de Rougemont, mais aussi des livres de fiction, Petite tétralogie du fallacieux, Le petit chaperon rouge partout, 420 minutes dans la Cité des Ombres, Gens ordinaires de Sort les Sept Jardins, Enfer bouffon, etc. En particulier, vous avez publié des commentaires fictionnels en collaboration avec des artistes, Henri Cueco, Christian Zemmer, Pierre Alechinski, Antonio Segui, François Houtin, Nicolas Alquin, Petra Verlet, Ramsa, Sabine, Moniris, etc. Vous avez été de nombreuses fois sollicité pour votre expertise du monde de l'art par les institutions culturelles. Vous avez été au ministère de la Culture et de la Communication, membre de la commission dite du 1% de 1973 à 1978, membre du comité consultatif national de la création artistique de 1979 à 1984, membre du comité de recherche du Centre Georges Pompidou de 1975 à 1980. Vous êtes aujourd'hui collaborateur de la quinzaine littéraire de France Culture et de Télérama. Orsay. Je signale à l'attention des personnes désireuses de découvrir ou de mieux connaître votre œuvre un ouvrage publié sur vos écrits en 2003, Les fables du visible et l'esthétique fictionnelle de Gilbert Lascaux aux éditions La Lettre Volée. Mais nous avons hâte de vous écouter et je vous laisse, cher monsieur, la parole pour cette communication que vous avez choisi d'intituler « Les tentations de Saint-Antoine et le monstrueux ». Monsieur, vous avez la parole.
Ce sont donc les tentations de saint Antoine et le monstrueux. Je vous donne d'abord la table des matières. La séduction et la terreur, tenter, une version extravagante, et aussi les tentations de Faust, le diable comme un double, s'orienter, se désorienter, les aguicheuses, l'acharnement des hybrides, le désert engendre des formes, les rites des hérétiques, en Égypte, farce féroce, messieurs les démons, laissez-moi donc. Je ne commenterai pas les œuvres que vous allez voir, la communication sera illustrée et les images sont légendées. La séduction et la terreur. Vous et moi, nous rencontrons régulièrement ou par intermittence des formes monstrueuses dans les tableaux, dans les estampes, dans les sculptures, dans les films, dans les bandes dessinées. Dans les poèmes et dans les romans, des monstres sont suggérés. Le monstrueux nous interroge, nous fascine, il nous inquiète et il nous amuse aussi. Circulent les sirènes, les sphinges, les centaures, les faunes, les objets avec des pattes, les montres molles, les hybrides nommés et d'autres sans nom. Les monstres remuent, ils dorment ou se réveillent. Ils s'agitent, se démènent, ils gesticulent, ils grimacent, ils se battent, ils s'étreignent. Parfois, tu serais saint Antoine, tu connaîtrais les tentations, tu trouverais les aguicheuses, les démons, les monstres multiples, un grouillement d'être hétéroclite. La séduction et la terreur, le charme et l'angoisse, l'ensorcellement et l'horreur, un ravissement et l'épouvante s'entrelaceraient. Toi, saint Antoine, tu serais le témoin de scènes imprévisibles. L'assistant, tu serais l'assistant, l'observateur, le garant. Tu serais là, tu serais une condition suffisante de la visibilité des monstres, de leur arrivée. Si tu n'étais pas présent, le monstrueux serait aussi inexistant, ou bien le monstrueux serait peut-être ailleurs, en enfer, ou dans une autre planète. Ailleurs en enfer, ou dans un autre planète, dans une autre planète. Autour de toi, saint Antoine, grâce à toi, à cause de toi, l'impossible serait un autre. L'impossible serait une altérité immédiate. Autour de toi et grâce à toi, l'impossible existerait en quelque sorte. L'impossible serait un réel absurde et contradictoire. Les tentations seraient inadmissibles, je reviens toujours en arrière, seraient inadmissibles. Et en quelque sorte, quasimodo, nécessaire. Les tentations supposent le mixte de l'ici et du lieu extérieur, le tressage du maintenant et d'un moment aberrant, le tissage de l'actuel et du virtuel. Dans les tentations, les terreurs séduisent, l'angoisse fascine et ensorcelle. L'affolement corrompt et capte. L'effroi perverti et débauche, l'horreur déshonore et cajole, l'épouvante allèche, l'abominable peut parfois offenser et éblouir. C'est ce que Georges Bataille et Antonin Artaud évoquent. Selon la légende dorée de Jacques de Voragine au XIIIe siècle, dans le désert, je cite, Antoine souffrit de dépression. La dépression, c'est l'acédia, le taedium, l'inappétence, l'ennui dont parlent Baudelaire et Moravia. C'est le manque de désir, c'est le manque d'énergie, la désespérance. On souligne dans les vies des pères du désert l'abattement, l'écœurement, la lassitude, la tristesse dans la solitude. Les fantasmes se dessinent dans le désert par l'épuisement des ascètes, par la mélancolie longue, par une méditation sombre et inlassable, par des préoccupations maussades. La position de saint Antoine est l'un des emblèmes de l'humeur noire et du deuil. Parfois, pas en ce moment, mais vous verrez une autre image. La position de saint Antoine est l'un des emblèmes de l'humeur noire et du deuil. Sa main, parfois, soutient sa tête lourde. Dans un tableau de Bosch, au Prado, saint Antoine pose ses deux mains sous la barbe. Il supporte le poids des songes et du malheur, la mâchoire sur le poing. La mélancolie souffre, gémit, et parallèlement, la mélancolie imagine et invente les formes dans le désenchantement. Rainer Maria Rilke énonce « Un monde naquit de la plainte et un monde où tout fut recréé. » La malchance poursuit. Vous aviez vu l'exposition qu'avait présentée Jean-Claire. Charles d'Orléans, vers 1450, soupire. Fortune vient déchirer mon papier et jette tout, comble de traîtrise, au puits de ma mélancolie. Vous imaginez le puits profond, sec, aride de la mélancolie dans le désert, assoiffé. Vous vivez sous le soleil noir. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Donc, Desdichado de Gérard Mineral. Tenter. Dans la tentation, dans les tentations, qui tente? Que tenter? Veut-on être tenté ou bien ne pas être tenté? Comment correspondre ce qu'est une tentation, une impulsion qui pousse au péché et qui éveille le désir? Dans le paradis terrestre, Ève et Adam sont donc tentés, sans vraiment le savoir, sans le vouloir. Paradoxalement, ce n'est qu'après la tentation qu'ils mangent le fruit de la connaissance. Donc, encore ignorants, encore candides et ingénus, ils sont tentés. Ils deviennent complices du serpent du mal. Dans la tentation, ils éprouvent l'envie ambiguë du désir, une envie douteuse, flottante, latente, sourde. Ève et Adam pressentent vaguement l'étrange désir du désir. Ève et Adam cèdent. Pourquoi et comment tentent-ils? Ils anticipent, ils devancent la faute originelle sans le prévoir. Ils devancent la chute du commencement, le péché et les punitions. Dans les tentations de saint Antoine, le saint retrouve avec évidence l'envie voilée d'Adam et d'Ève. Le saint est soumis par la chair comme Adam et Ève étaient fascinés par leur chair qu'ils ne connaissent pas encore. Les tentations de saint Antoine sembleraient aussi une version extravagante de celle du Christ, une traduction hallucinée, une imitation visionnaire. À trois reprises, Jésus subit les tentations suscitées par le démon. Cet épisode se situe aussitôt après son baptême. Après le baptême, Jésus, poussé par l'Esprit, se rend au désert et le démon intervient lorsque Jésus a jeûné durant 40 jours et 40 nuits. Puis Jésus seul refuse les propositions du tentateur. Jésus subit les assauts du démon et il rejette toute compromission. Jésus choisit le royaume qui n'est pas de ce monde. Toujours dans le désert, le peuple de Moïse, Jésus et saint Antoine sont tentés. Or, les tentations du Christ suppose des représentations sobres, simples. Il y a peu de peintres, je pense, il y a peu de peintres qui ont précisé ces rencontres de Jésus et de Satan. On en voit dans le romantisme. Et au contraire, de multiples peintures et estampes donnent à voir les visions tentatrices de saint Antoine, ses hallucinations. Saint Antoine se trouve situé en un opéra étrange, en un cauchemar chamarré, en une fantasmagorie, en un mirage chatoyant et moiré. Donc, effectivement, un mirage chatoyant et moiré, les monstres des tentations de saint Antoine sont des figurants nombreux du cirque diabolique, du chahut infernal, de la bacchanale de Satan dans le vacarme. Et aussi les tentations de Faust. Vous pouvez opposer les tentations de saint Antoine à celles de Faust. En 1942, Paul Valéry écrit une préface à la tentation de saint Antoine de Flaubert. Selon Valéry, le roman de Flaubert aurait été excité par la lecture du Faust de Goethe. Entre Faust et la tentation, il y a similitude d'origine et parenté évidente des sujets, origine populaire, existence foraine des deux légendes sous l'exergue commun « l'homme et le diable », Faust serait loin de saint Antoine. Faust, le savant, a déjà tout lu, tout connu, déjà brûlé tout ce qui peut s'adorer. Faust en est à chercher ce qui pourrait bien le tenter. Et au contraire, Antoine voudrait bien ne pas être tenté. Saint Antoine serait naïf, mais le trop savant Faust serait donc tenté d'être doublement séduit et d'imaginer de nouveaux désirs. Selon Paul Valéry, saint Antoine ne cède ni ne résiste. Saint Antoine attend, dirait-on, la fin du cauchemar. Il est passif. L'ermite, encapuchonné, est perdu, enfermé en lui-même. Il est quand même attiré, vaguement ensorcelé. L'ermite attend. Il espère l'aide des dieux, de Dieu et des anges. Attendre, attendre, sans cesse se morfondre. Le diable comme un double. Toi, tu serais le saint, ou bien tu serais le diable. Mais si tu es un diable, tu es tantôt un ennemi, un adversaire radical, tantôt un double, un jumeau sinistre, un alter ego inquiétant, une ombre sombre, un reflet redoutable. Tantôt tu es une illusion, un presque rien, une inexistence efficace, c'est un vide bariolé, une absence hétéroclite. Dans les apophthegmes des pères du désert, 4e-5e siècle, Abba Antoine dit « Je vis tous les filets de l'ennemi déployés sur la terre, mais chacun est à un moment, parfois, son ennemi. » Tu serais parfois, ça c'est un des détails de Lisbonne, vous voyez ce personnage, c'est un hypnotiseur, c'est probablement un magicien diabolique, un thaumaturge, un saltimbanque redoutable, peut-être est-ce le metteur en scène au fond des visions, et il tourne d'ailleurs vers les monstres, mais il est là. Et on voit d'ailleurs un pied coupé qui se trouve sur un tissu à moitié déchiqueté à côté de ce saltimbanque. Jérôme Bosch ressemble parfois lui-même à un battleur satanique, à un metteur en scène inquiétant. S'orienter, se désorienter. La légende dorée propose une étymologie du prénom Antoine. On a vu, c'est une étymologie très discutable. Je ne connais pas. L'étymologie signifierait Anna, en haut, et Tenens, qui possède. Selon la légende dorée, Antoine est celui qui possède les biens d'en haut et qui méprise ceux de la terre. Antoine désestime le monde et le considère immonde, trouble, je cite toujours la légende dorée, immonde, troublé, transitoire, trompeur, amer. Le monde est immonde. S'il faut posséder les biens d'en haut, il va vers le haut, il s'élève, ou bien il se déplace sur le sol, ou encore il descend au-dessous du sol et imagine l'enfer, il erre dans les songes, voyageur de l'illusoire. Toi, Saint-Antoine, on l'avait vu tout à l'heure, Saint-Antoine, tu te recroquevirais sur le sol, tu te ramasserais sur toi-même, tu te blottirais de manière à occuper le moins de place possible. Tu prierais, t'agenouillerais. Mais, c'était tout le début de l'image, mais tout se passe comme si dans tes fantasmes, dans tes désirs et dans tes angoisses, tu montais ou tu descendais. Tu gravirais, tu volerais. Parfois, les démons t'envoleraient dans l'air. Les démons t'élèveraient bien au-dessus du sol qui te jetterait brutalement. Ou bien, au contraire, mais ça, on ne le verra pas, mais dans la légende dorée, en une extase, des anges t'élèveraient dans les cieux. Alors, un conflit dans le ciel, dans les airs, les anges et les démons se battraient pour ton âme. Puis, aidé par les anges, tu serais librement porté en l'air et ensuite tu te retrouverais sur terre, redéposé, libre. Tu connaîtrais donc des ascensions et des chutes, des montées et des descentes, des élévations espérées et des défaites. Tu connaîtrais donc des ascensions et des chutes, des montées et des descentes, des élévations espérées et des défaites. Nous regardons des chorégraphies, les mouvements du saint, les mouvements des démons, les mouvements des anges. Ce sont des ballets fantasmagoriques. Inconscient, tu apprendrais le haut, le bas, la droite et la gauche. Tu apprendrais le haut, le bas, la droite et la gauche. Tu retrouverais l'orientation et la désorientation, les buts et l'égarement, les chemins et l'errance. Dans la légende dorée, tu vis, toi, Saint-Antoine, tu vis l'être redoutable qui dressait une tête longue et terrible jusque vers les nuages. Le diable géant tendait ses mains et il empêchait les êtres ailés de voler jusqu'au ciel. Et pourtant, le diable ne parvenait pas à en empêcher d'autres de voler librement vers le ciel. Alors toi, Antoine, tu entendis une joie immense mêlée d'une extrême douleur. Et tu compris qu'il s'agissait de l'ascension des âmes. Car le diable retenait les âmes pécheresses. Puis le diable gémissait de voir l'envol des âmes enfin libérées du péché. Dans le ciel, ça gémissait partout, les sanglots des pécheurs, les sanglots du saint, puis les sanglots des démons qui grincent des dents. Dans cette désorientation, tu verrais le mélange des quatre éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air. En particulier, dans la tentation de Lisbonne, le ciel est envahi par des nefs fantastiques, un immense poisson qu'un couple chevauche ou encore une barque oiseau. Ou bien, dans le tableau du Prado, le moine est très près de l'eau, on le verra peut-être tout à l'heure, près de l'étang. Je ne pense pas qu'en soi, on le verra plus tard. et il découvre peut-être son visage sur la surface de l'eau et une des mains griffues. Derrière la colline, ce qu'on avait vu au début, de loin, on perçoit des échelles, des armes, des grappins. On attend l'attaque. Les diablotins cuirassés font déplacer une gigantesque cruche. Elle serait une sorte de canon qui fait jaillir un liquide qui serait l'eau ou l'huile bouillante. Des objets avec des mains et des machines animalisées unissent la nature et la nature et la technique dans le paysage bouleversé. La fusis démesurée et la techné extravagante s'entrelacent. Elles sont perçues de haut selon des vues plongeantes. Les aguicheuses. Dans tes tentations, tu serais entraîné, envoûté par ta propre luxure rêvée, par la fascination de tes angoisses, par tes instants d'orgueil et de supériorité, par une curiosité, par ton avidité de jouir, de connaître et de pouvoir. Tu serais complice de la terreur, victime, humilié. Vieux, tu te souviendrais des espoirs déçus et de l'inquiétude de ton adolescence enfiévrée. C'est ce que dit très bien Flaubert dans la Tentation de saint Antoine. Quand saint Antoine jeûne souvent, il se prive de nourriture et il imagine des repas fastueux ou des dévorations. L'oralité joue un rôle mangé. Bien des séductrices sont parfois à peine monstrueuses. Elles dissimulent une patte de bouc, doigt ou la serre d'un rapace. Ou encore, comme on l'a vu à Lisbonne, ou encore, la guicheuse cache une queue sous une traîne ou sous des rubans. Ou bien, le récit hagiographique et les contes insistent sur les robes de la ravissante et sur sa peau, mais sous les robes et la peau, il y a les os et la chair pourrie, putréfiée. Récemment, Lucien Clergue invente des surimpressions, des interpénétrations d'images, la nudité et le monstrueux. L'acharnement des hybrides. Les hybrides, les êtres composites, s'excitent avec acharnement, avec cruauté, avec rage. Dans la légende dorée, saint Antoine, gisant à terre, provoqua les démons en combat. Ils lui apparurent, c'est un peu ça chez Grunewald, ils lui apparurent sous diverses formes de bêtes sauvages et le déchirèrent de coups de dents, de cornes, de griffes. Tu serais agressé, mordu, broyé, lacéré, assommé, fendu, écartelé, dépecé, mis en lambeaux. Les mufles, les groins, les becs, les gueules te menaceraient. Regardez les tableaux de Bosch et aussi en particulier ceux de Grunewald. Tu découvrirais un charivari méchant, un carnaval atroce, un sabbat, un chahut, un chaos social, un tohu-bohu, le grouillement des êtres, leurs amas, leur pullulement, leur tourbillon, l'encombrement, le mal serait une légion, un débordement. Il s'agit d'une foule dangereuse et féroce, d'une fête cruelle. Tes yeux vagabonderaient dans un espace extravagant. Tes yeux se disperseraient, s'éparpilleraient. Puis tes yeux se concentreraient autour des détails minutieux, sur des scènes petites et imprévisibles, sur des scintillements. Toute image bouge, elle ne reste pas en place. Alors les démons assiégerait, on le reverra, mais on le voit même ici, le refuge de l'ermite qui deviendrait un piège. Ce serait l'assaut des hybrides. L'ermite est assiégé, investi, encerclé, sans forteresse, sans citadelle, sans armure, sans protection, sauf la prière. La luxure et la mort entraîneraient les humains en une danse toujours accélérée. Le ventre, avec une oreille et un bonnet, intervient. Avec un crâne animal, on l'avait vu tout à l'heure, un monstre cuirassé joue de la harpe. Il est un anti-Apollon, il est un anti-David de la Bible. Vous l'aviez vu, il y avait un drap vert qui enveloppe à moitié le monstre. La forme de la harpe fascine toujours Bosch. On trouve l'harpe dans l'enfer du Jardin des Délices. L'harpe est alors un instrument de torture avec ses cordes. On en a déjà parlé tout à l'heure, le grand historien de l'art, Jurgis Baltrujaitis, le Moyen-Âge fantastique, met en relation la tentation de saint Antoine et celle de Bouddha. Baltrujaitis cite un texte traduit en chinois au IIIe siècle, la Lalita Vistara. Le démon Mara veut attaquer Bouddha avec des créatures qui se transforment de 100 millions de manières, avec leur corps flamboyant, avec des dents difformes. Certains ont le ventre comme une cruche. On les reverra tout à l'heure. Et le démon Mara envoie ses filles, les filles du démon, qui cherchent à troubler par les 32 tours de la magie féminine qui se dévoile et se voile. Le démon Mara propose aussi, parmi les séductrices, une femme très âgée et déformée. La vieille femme serait peut-être l'image de la mère de Bouddha. Ainsi, d'ailleurs, je crois qu'aussi, dans le texte de Flaubert, on évoque aussi la mère de saint Antoine. Ainsi, les tentations et les formes monstrueuses voyagent, circulent à travers les continents. Les monstres se déplacent souvent de l'Orient vers l'Occident, puis les monstres reviennent. Ce sont les monstres nomades. On y reviendra. Alors, les monstres, je cite de chez Michaud, trouvent leur centre en vous. C'est l'impuissance du solitaire et la puissance voilée des autres. Le poème des monstres rêvés, visibles, est un poème de la faiblesse vécue. Le solitaire fiévreux est un terrain conquis d'avance, tout en cherchant une résistance. Comme le dit en 1935 Henri Michaud, la nuit remue. Alors, le jeu monstrueux se poursuit à travers l'indéterminable nuit qui est la nuit des fiévreux. Le désert engendre des formes. Saint Antoine, tu aurais d'abord vécu jeune et assez riche dans le siècle dans les divertissements. Moi, je reviens toujours cette image de Lisbonne. À 20 ans, tu écouterais la phrase de l'évangile de Matthieu. Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Puis tu deviendrais un moine, un abstinent, un chaste, un solitaire. Tu aurais pris tes distances par rapport aux communautés. Ermite, tu serais parti vers le désert. Ta conversion, ta mutation, une rupture, une volte-face, ta métamorphose radicale te conduisent à la solitude, à l'isolement, au retranchement, à la pénurie. Au manque voulu, au dénuement choisi, tu essaies d'éviter tous les désirs et tu exiges le désert. Contre les désirs, il y a le désir du désert. À cette époque, au IVe siècle avant Jésus-Christ, saint Antoine n'est pas le seul anachorète. Dans la première phrase de son roman, Thaïs, 1890, Anatole France affirme avec ironie, en ce temps-là, le désert était rempli d'anachorètes. Donc, à cette époque, les isoler, les retirer, les écarter, feraient foule et ils envahiraient le sable. Dans la vie d'Antoine de Saint Athanase d'Alexandrie, le désert s'est rempli de moines. Anatole France ajoute d'autres paradoxes amusants. Ces solitaires estimaient, je cite Anatole France, que les maladies de nos membres assainissent nos âmes et que la chair ne saurait recevoir de plus glorieuses parures que les ulcères et les plaies. Anatole France est à la fois fasciné par les ermites et Anatole France sceptique. Avec une ironie discrète et féroce, il évoque la vie farouche des solitaires. Dans les apophthegmes des pères du désert, Abba Antoine conseille celui qui demeure au désert et vit dans le recueillement et débarrassé de trois combats, de l'ouïe, du bavardage et de la vue. Son seul combat est la fornication. Dans le désert, l'ermite serait content de ne pas parler, de ne pas écouter, de ne pas rencontrer, de ne pas voir les objets. Alors, paradoxalement, tout se passe comme si le silence et la solitude donnaient naissance à la concupiscence, au fantasme de la chair, au monstre. Tout se passe comme si le désert et la nuit engendraient des formes fantastiques en dehors du regard et de l'oreille. Le solitaire, donc le feu ici, le désert et la nuit engendraient les formes fantastiques en dehors du regard et de l'oreille. Le solitaire ne veut rien voir, mais il perçoit le visible de son passé, de ses désirs, de sa jeunesse, et il déforme le visible. Quand il combat sans cesse la fornication, elle l'obsède. La femme absente, la guicheuse, rêvée, voulue, refusée, est l'ennemi permanent, l'adversaire envahissante et la complice ignorée. Le temps, une femme du temps passé, comme l'indique Gustave Flaubert, est déniée et glorifiée, adorée par la dénégation, par un mixte du désaveu et du consentement. Le solitaire combat, il résiste contre la lascivité et il trouve des scènes de luxure et de scandale, des scènes inventées par les diables et peut-être par son inconscient. Je reviens toujours un peu en arrière. Dans le désert, les scènes sataniques sont des mirages, des chimères, des prodiges. Le désert est à la fois un lieu et un non-lieu. Le désert est l'origine et un décor, une mise en scène. Le désert est une plateforme, un plateau de théâtre. Dans un tableau de Bosch, une ville est en flammes. Ce feu est-il un fragment du rêve du saint, ou bien un feu réel, ou encore ce feu est-il un reflet de l'enfer, comme dans le char de foin de Bosch? Le désert est un vide équivoque, le vide féconderait, peuplerait les formes. Le vide inventerait les horreurs et les excès. De la même manière, Bosch est le frère de Goya. Alors la raison sommeille et elle demeure active, efficace, dynamique. La raison endormie, hypnotisée par elle-même, cachée, engendre et fabule. La raison improvise des méthodes inconscientes et des récits équivoques. Elle choisit une stratégie sourde, avec une méticulosité, avec une rigueur secrète, avec une logique voilée. Bosch révèle le vide qui délire et qui ordonne. Ce sont le vide et la raison qui agencent, qui tissent, qui structurent. Les monstres naîtraient parfois grâce à des miroirs déformés du rationnel qui se déplacent. Le sommeil de la raison suggère des métamorphoses et des anamorphoses. Les rites des hérétiques. Dans le triptyque de Bosch, les visions de Saint Antoine donnent à voir les rites des hérétiques, les messes noires, les cérémonies détestables, les liturgies plus ou moins obscènes, les sacrements bafoués. Des humains nus soutiennent, on voit à gauche, une table instable, un autel qui parodie l'Eucharistie. Sur un autre autel, un crapaud humain brandit un œuf ou bien un hostie. Le méchant prêtre sanglier s'agenouille sur la table du sacrifice. Et une chouette se dresse sur les cheveux du méchant prêtre sanglier. À ces rites extravagants s'oppose le crucifix qui luit dans l'obscurité, au fond d'une tour. Les rites se situent au seuil de la tour, à l'extérieur. Saint Antoine lutte à ce moment-là contre les hérésies qui s'opposent alors au catholicisme. Il y a les Ariens, les Mélétiens, les Carpocratiens, les Marcosiens, les Nicolaïtes, les Manichéens, les multiples gnostiques que Gustave Flaubert évoque dans la Tentation de Saint Antoine. Un oiseau porte un entonnoir comme couvre-chef, il tend de son bec une épître énigmatique, un message probablement trompeur, un mandement mensonger. Ce sont donc on peut se dire que les mirages sont alors des miracles trompeurs quand il y a le diable. Saint Antoine perçoit parfois une messe parodique, une célébration bouffonne, une cérémonie travestie, un culte burlesque des hérétiques. En Égypte, Saint Antoine est né vers 251 dans un village égyptien de la vallée du Nil. Il a vécu autour du Nil, dans le désert, dans les monts arides. Il vint deux fois à Alexandrie. Il s'installa à certains moments dans des tombeaux ou dans une fortification abandonnée, ruinée. On raconte que dans les ruines circulent les fauves, les satyres, les rapaces, les centaures, les sorciers et les sorcières. Égyptien, Saint Antoine est hanté par les égarements, par les masques, par les voiles, par des femmes désirées, inconnues et fugaces. Selon Gérard de Nerval, Voyage en Orient, l'Égypte des songes reste le pays des énigmes et des mystères. Alors, dans cette Égypte, les voiles et les bandelettes entourent et enveloppent les morts, les dieux et les vivants. La sphinx règne en cette Égypte. Elle privilégie la méconnaissance, la dissimulation, l'illusion, les fantasmes. Dans la Bible, l'Égypte est une région d'exil, et Moïse est né aussi près du Nil. Les tentations supposeraient des séances de torture répétées, donc farces féroces, des sévices, les avanies, les tourments recommencés, les supplices, les persécutions, l'acharnement, les farces féroces, la cruauté goguenarde, des brimades, des outrages renouvelés, des vexations. Tu serais Saint Antoine bafoué par les démons. Il y a presque toujours un comique, une bouffonnerie, un rire satanique. Le rire est méchant, l'angoisse et l'humour s'unissent. À plusieurs reprises, l'esprit de fornication t'apparaîtrait sous l'apparence d'un enfant noir. D'ailleurs, Sainte Thérèse d'Avila évoque dans un texte un affreux petit nègre qui grince des dents avec des pieds fourchus et un front cornu. Ou bien tu verrais un diable de haute stature qui ose se prétendre puissance et providence divine et qui marchande « Que veux-tu que je te donne ?» Antoine. Mais toi, Antoine, tu essaies de ne rien désirer. Tu renonces. Tu ne veux recevoir ni pouvoir ni richesse. Tu es humble. Selon Paul Valéry, Saint Antoine attend la fin du cauchemar. Selon chez Flaubert, la reine de Saba pleure, rit, et elle s'en va en sautillant à cloche-pied. Tu me dédaignes, adieu, dit la reine de Saba. La reine de Saba pousse une sorte de hoquet convulsif qui ressemble à des sanglots ou à un ricanement. Messieurs les démons, laissez-moi donc. Au XIXe siècle, à Rouen, à la foire Saint-Romain, un théâtre de marionnettes avait pour enseigne la tentation de Saint-Antoine. Dès son enfance, Gustave Flaubert a été fasciné par ses marionnettes. Plus tard, Flaubert amena Georges Sand, Tourguenieff, Feydeau au théâtre de la foire Saint-Romain. Harcelé par les diables, Saint-Antoine refuse les tentations. Avec politesse, Saint-Antoine demande le calme. « Messieurs les démons, laissez-moi donc !» Mais les méchants l'entraînent dans le sabbat. « Non, tu danseras en rond !» À un moment, les démons volent à l'ermite son cochon fidèle. L'ermite implore. « Rendez-moi mon cochon, s'il vous plaît. Voulez-vous me le rendre ?» Plus tard, après les tentations, le saint redevient serein, accompagné de son cochon, comme le montre le tableau du Prado, le cochon paisible. Oui, tu serais saint Antoine. Tu obéirais parfois à la logique du monstrueux, à la redoutable stratégie du démoniaque. Tu serais à la fois toi-même et l'autre. Dans le débordement des formes, tu trouverais simultanément le drôle et l'inquiétant, la séduction, le comique et la terreur, puis tu rêverais comme saint Antoine à un recueillement, à une contemplation, ce sera le silence après le tintamarre monstrueux.
Vous venez d'entendre la communication de Gilbert Lascaux intitulée « Les tentations de Saint-Antoine et le monstrueux » qu'il a donnée devant l'Académie des Beaux-Arts le 30 mai 2007.